Olivier, vous êtes haut fonctionnaire à la retraite, vous êtes grand randonneur devant l'éternel et vous venez de publier un ouvrage aux éditions Le Festin. Cet ouvrage s'intitule « Curiosités et merveilles de Pau et du Béarn ». Alors si j'ai donné ces précisions, c'est parce que votre ouvrage n'est pas qu'historique, mais c'est plutôt celui d'un promeneur curieux qui fera redécouvrir des lieux que l'on croit connaître. Alors d'où est venue, Marc-Olivier, l'idée de ce livre? Parce que les livres sur Pau et sur le Béarn, ils ne manquent pas.
Oui, à l'origine, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. J'ai écrit des chroniques chaque semaine dans un hebdomadaire dont l'intitulé était « Ça vaut le détour ». C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience moi-même de découvrir le patrimoine à travers les journées du patrimoine, à travers les visites qu'organisait Pau, ville d'art et d'histoire, par exemple. Et je me suis rendu compte que le patrimoine était très riche et que moi-même, je ne le connaissais pas. Donc j'ai essayé, à travers ces chroniques, de tirer par la manche le lecteur pour lui dire « Ça vaut le détour, venez voir, c'est intéressant ». Et il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc c'est la compilation de ces chroniques qui a donné cet ouvrage.
Alors comment vous avez travaillé? Vous avez, j'imagine, un travail... Vous n'êtes pas historien de formation. Quelle a été un peu votre manière, votre méthode pour trouver les renseignements, faire les articles, les chroniques?
Alors d'abord, j'ai visité. Il faut voir, on ne peut pas écrire à partir de...
Donc vous avez marché, c'est bien.
J'ai marché, par exemple sur Oloron, c'est assez long sur Oloron, et je détaille même les numéros des immeubles à voir, etc. Donc je me suis rendu sur place. Et ensuite j'ai essayé de lire ce qui était écrit par les historiens locaux, ou les historiens de l'art locaux qui se sont intéressés à ces éléments du patrimoine. Et en 1000 mots à peu près par chronique, j'ai essayé de faire le tour du sujet, enfin, pour à la fois décrire, comme dans un guide, et donner envie d'aller voir. J'essaye de faire partager mon enthousiasme. Et aussi, je suis donc la plongée dans le passé, l'origine du bâtiment, ce qu'il nous dit de la ville, etc. Voilà, donc c'est en croisant tout cela. Et puis, un jugement personnel aussi, peut-être pour faire réagir le lecteur, pour pas que ça soit trop descriptif et trop historique.
Oui, voilà. Donc, il y a aussi votre ressenti à vous, les lieux ou les monuments que vous avez visités.
Un peu de la critique d'humeur, comme dit mon éditeur dans la quatrième de couverture.
D'accord.
Parce que je pense qu'il faut faire partager son enthousiasme. Ça suppose aussi de manifester de l'enthousiasme. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a très peu de dénigrement. Enfin, pratiquement pas de dénigrement. D'ailleurs, si j'avais trouvé que c'était pas intéressant, je n'aurais pas parlé.
Voilà, on n'a pas envie d'y aller. Si vous dites que c'est moche, on ne va pas y aller. C'est sûr. Oui, donc un angle quand même relativement original, puisque ce n'est ni un guide vraiment touristique, ni non plus un livre d'histoire. C'est vraiment ce qu'on disait, le promeneur. La personne qui se... Alors comment vous avez sélectionné vos sujets, par contre? D'ailleurs, il y aura sûrement une suite, j'imagine, à ce livre.
Alors,
parce
oui,
qu'on est pas, on va pas partout.
Il en manque
Pau
beaucoup.
En
c'est vrai qu'il manque beaucoup de sujets. D'ailleurs, je le dis dans l'avertissement. Écoutez, j'ai commencé par le Pau. Par les journées du patrimoine, les visites de Pau, ville d'art et d'histoire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, un peu en colimaçon, je suis parti du centre, j'ai tourné dans Pau, et puis j'ai commencé à sortir un peu. Alors, Pau au sens strict, alors ensuite l'Escar, et puis le Béarn. Alors, le Béarn, il est... c'est le Béarn et autres lieux, parce qu'il ne vous aura pas échappé en lisant la table des matières, que je parle de la Soule. Je parle du château de Troisville, que j'appelle le château de Tréville, puisque c'est une référence au capitaine des mousquetaires, qui était originaire qui a fait construire ce château. L'hôtel de Maïti à Mauléon, et puis quelques incursions en montagne, parce que comme vous l'avez dit...
C'est pour ça que je vous demande effectivement le choix des sujets, parce qu'en fait, c'est pas très didactique. Enfin, on sent que c'est un petit peu au hasard.
Voilà, il manque... pour le Béarn, il manque des choses importantes, mais je pense que si mon éditeur me le propose,
et vous ferez la
le deuxième tome, notamment dans Navarinque, Sauveterre, les eaux chaudes, enfin, que j'ai fait depuis en chronique, Bétarame, voilà.
Bétarame, pas très loin de Lourdes, donc pour Radio Présence, ça intéresse les auditeurs de Radio Présence. Alors c'est vrai que si je vous reçois à Radio Présence, Marc-Olivier, c'est aussi parce qu'on retrouve au détour des pages beaucoup de, la chrétienté, elle est quand même bien présente, y compris à Pau et en Béarn, et qu'on retrouve beaucoup de visites d'églises, et puis même aussi des commentaires sur des bâtiments religieux disparus. Bon, on va plutôt parler de ceux qui existent encore. Donc vous avez visité toutes les églises du centre de Pau, au moins.
Oui, parce que quand on regarde un peu...
Redécouvrir, parce qu'à fois on ne les connaît pas
bien, redécouvrir.
Elles ne sont pas toujours très enthousiasmantes. Il y a deux choses. Il faut les découvrir peut-être avec votre œil, justement.
Oui, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a d'abord l'importance, le patrimoine palois n'est pas très ancien. Il y a le château, laissons de côté le château. Ensuite, milieu XVIIe siècle, il y a le collège des Jésuites, le lycée Bartou, donc la façade sud porte encore la marque de ce temps, hein, de l'architecture de ce temps. Et puis après, l'essentiel de l'architecture, c'est le XIXe et le début du XXe siècle, c'est-à-dire la grande époque de Pau, d'ailleurs l'époque de richesse de Pau. Et ce patrimoine, il est essentiellement religieux. Alors, il y a le patrimoine du XIXe siècle avec Saint-Jacques et Saint-Martin. Saint-Martin assez extraordinaire, qu'on croit connaître, mais qui est vraiment à redécouvrir. Ouais, parce que à Saint-Martin, alors Saint-Martin, c'est une équipe nationale qui est venue. L'architecte, c'est Boisvivald. C'est le deuxième inspecteur général des monuments historiques. Il succède à Mérimée. C'est un personnage considérable. C'est un grand ami et admirateur de Viollet-le-Duc. Et il vient pour faire l'église de Saint-Martin avec une équipe qui a travaillé sur la restauration de toutes les grandes cathédrales au milieu du XIXe siècle, notamment Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, etc. Ce sont des gens exceptionnels. Et je regrette, dans la chronique je le dis, je regrette quand même l'état d'entretien, notamment du décor intérieur de Saint-Martin, Saint-Martin qui est absolument exceptionnel et qui mériterait quand même un effort des pouvoirs publics. Je sais bien qu'on manque de crédit, mais c'est quand même un peu scandaleux de le laisser dans cet état-là. Et puis alors il y a un deuxième patrimoine très important, c'est celui du XXe siècle, avec Saint-Julien, avec Notre-Dame, avec Saint-Joseph, par exemple, où on voit intervenir là une pléiade d'artistes locaux. Il y a les ateliers Montméjean qui ne sont pas tout à fait locaux, mais qui ont un lien très étroit avec le Béarn, qu'on retrouve chaque fois. Montméjean, notamment Charles Montméjean, à Saint-Julien, qui est à visiter parce que c'est très très beau, le décor intérieur est très original. Et puis ensuite, Notre-Dame, où par exemple, on trouve des œuvres de Gabart, la Vierge qui surmonte le clocher, bien entendu, mais aussi un très très beau bénitier tout à fait extraordinaire, et puis un chemin de croix exceptionnel. Donc il faut aller voir Notre-Dame, il faut aller voir aussi...
Il faut aller voir toutes les... Mais ce qui est intéressant aussi, on va arriver là au terme de l'émission, c'est de voir que... de découvrir aussi tous ceux qui ont disparu finalement, parce que vous le dites quand même, le centre de Pau, il y avait des couvents, il y avait... Et votre livre est intéressant aussi parce qu'on découvre effectivement ce qui a pu disparaître comme couvent. On arrive au terme de l'émission, j'ai découvert dans votre livre qu'on connaît Pau-ville anglaise, on connaît Pau-ville américaine, vous avez fait une chronique sur Pau-ville russe.
Oui, alors
c'est quelque chose qui est peut-être pas très connu.
Oui, tout à fait. J'ai visité l'église Saint-Alexandre Nevski, qui est très discrète, qui ne ressemble pas du tout à une église orthodoxe. L'architecte a visiblement repris des plans qu'il avait déjà utilisés pour des édifices religieux protestants. L'église orthodoxe de Pau a été construite bien avant celle de Biarritz, et c'est de Pau d'ailleurs que sont parties les initiatives puisque les Russes qui vivaient à Pau allaient aussi passer l'été à Biarritz. Donc au début, c'était dans un hôtel que faisaient les offices, et puis ensuite, et c'était par le même pope qui résidait à Pau, et ensuite on a construit l'église orthodoxe de Biarritz, qui est par son architecture plus orthodoxe que, si je puis dire, que celle de Pau.
Voilà, écoutez, on arrive au terme de l'émission, donc on peut dire que ce livre, est-ce qu'on peut s'en servir comme guide de promenade à Pau, enfin comme un guide finalement à Pau et en Béarn?
Oui, c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire venez voir et vous ne serez pas déçus.
Voilà, on ne serait pas déçus. Donc je rappelle que cet ouvrage est donc aux éditions Le Festin, il s'intitule Curiosités et merveilles de Pau et du Béarn par Marc Olivier. Il est en vente un peu partout, je crois, d'après ce que vous m'avez dit. Donc, on le trouve dans les bonnes librairies. Et vous pouvez également le commander sur www.lefestin.net. L'occasion d'être d'ailleurs de découvrir cette maison d'édition et tout ce qu'elle peut éditer. Merci Marc-Olivier.
Merci.